Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à...
Jean-François Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc aussi à Tous en Bottes 2018. Vous proposez le stand qui s'appelle La Rivière des Arômes.
Oui, c'est ça.
Entre autres. Et puis, vous avez aussi une autre fonction, c'est d'être président du syndicat Intermassif pour la production et l'économie des simples. Et on abordera ce qu'est ce syndicat. Oui. Un peu plus tard. Donc, la rivière des arômes traite d'huiles essentielles et d'eau florale, principalement ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, en fait, à l'origine, on est producteurs, distillateurs d'huiles essentielles et d'hydrolat, donc, ou eau florale. C'est-à-dire qu'on transforme donc, par distillation nos produits qui sont issus, bon, bien sûr, de la baie, produits bio, cueillette ou culture. Et ce qui fait surtout notre caractéristique, c'est qu'on est adhérent donc, au syndicat des simples, dont je suis en fait le co-secrétaire au niveau national. Et donc, voilà, à ce titre-là, on défend une certaine éthique, une certaine pratique de la cueillette, de la relation aux plantes et du conseil aussi concernant l'utilisation des plantes.
Alors, vous avez une gamme de produits, on peut en dénombrer combien, par exemple ?
Au final, ça fait une soixantaine de produits issus d'une trentaine de plantes, environ. Enfin, je dis 60, mais il y a peut-être un peu plus avec les huiles de massage, peut-être 80.
Et la plupart des plantes que vous proposez, donc, elles sont issues de cueillettes ou alors vous avez des fournisseurs de temps en temps pour certaines espèces ?
À 90%, c'est notre production. Après, on fait quelquefois des échanges avec des collègues qui sont simples. Ou très exceptionnellement, on produit si on n'en trouve pas et qu'on est sur une année, par exemple, où il n'y a pas eu, on va dire, je sais pas, de menthe, par exemple. Ça peut nous arriver de nous fournir ailleurs, mais on évite, on tient à garder vraiment l'aspect production locale.
Et pour ça... Je voulais savoir, les huiles essentielles, on le sait tous, permet de soigner quelques petits bobos, ça va même au-delà parfois, de prévention par exemple.
Oui, bah c'est vrai qu'on peut travailler à différents niveaux avec les huiles essentielles. La grande caractéristique des huiles essentielles, c'est leur côté anti-infectieux. Donc à ce titre-là, vous avez une large gamme d'interventions sur l'aspect à la fois bactérien, viral, antifongique également. Vous voyez, donc ça, c'est la grande caractéristique des huiles. Bon, certaines sont aussi des calmantes, des apaisantes. Enfin, je ne peux pas faire tout le tour ici, mais c'est très large, oui.
Alors comment ça se passe, vous en tant que, comment on pourrait définir ou nommer votre activité ?
Je dirais qu'aujourd'hui je me définis comme paysan herboriste, c'est-à-dire que à la fois on est dans la culture des plantes et à la fois on est dans le travail avec les herbes, avec les plantes, et dans la transmission de, à la fois des savoirs sur les plantes. Pour que les gens puissent prendre soin de leur santé. Pour moi, c'est le terme aujourd'hui le plus approprié qu'on peut utiliser, même s'il n'est pas encore aujourd'hui officiellement reconnu, quoi.
Cette activité que vous exercez depuis combien de temps environ maintenant ?
Nous, ça va bientôt faire une vingtaine d'années, en fait, qu'on est dans le circuit, oui.
Et pour ça, vous avez eu une formation concernant les plantes et leur teneur aussi ?
Oui, alors, au départ, moi, j'ai fait une formation, donc un BPREA à Nyons, Donc pour la production. Après, j'ai fait aussi une spécialisation, enfin avec ma compagne, avec Dominique, on a fait une spécialisation en utilisation des huiles essentielles hydrolat à l'école lyonnaise des plantes. Et puis, c'est aussi beaucoup de travail en autodidacte. On a suivi aussi la formation des simples du syndicat, puisque assez régulièrement, tous les ans au moins, il y a une formation qui est donnée. Donc soit sur la prévention, la précaution, sur l'utilisation des plantes, les problématiques de réglementation, etc.
Cette formation et cette reconnaissance, donc, comment elle est située actuellement?
Alors il y a deux choses, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est tout à fait reconnu, c'est la formation sur la production, donc dans un CFPPA, financé officiellement par l'État, etc. Après, vous avez les écoles qui sont effectivement des écoles privées, les écoles d'herboristerie, qui, elles, forment des gens en tant que, ça dépend, mais certains les appellent herbalistes, puisque, comme on le sait, le diplôme d'herboriste n'existe plus depuis 1941. Donc, aujourd'hui, vous avez sur le Conseil des plantes un monopole, donc qui est réservé aux pharmaciens et aux médecins. Et c'est aussi ce qui pose question pour un certain nombre de plantes, si vous voulez, qu'on pourrait conseiller assez facilement et ça se fait d'ailleurs. Hein, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas de reconnaissance officielle pour le faire. Alors que, si vous voulez, les gens qui ont vraiment besoin des informations. Aujourd'hui, vous trouvez tout sur Internet. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a pour moi une forme d'hypocrisie aussi dans le système aujourd'hui et qui n'est pas seulement... Alors, on nous le présente sous forme de prévention. C'est vrai qu'il faut, que la reconnaissance se fasse vis-à-vis de gens qui sont formés. Et donc, là-dessus, il y a un travail qui est en train de se faire hein, pour la reconnaissance de cette fonction-là, de ce métier. C'est dans ce sens-là qu'on fait en sorte d'aller aujourd'hui, quoi.
Tout à l'heure, vous disiez donc que le diplôme d'herboristerie a été stoppé en 1941. Vous avez étudié un peu l'histoire d'herboristerie et quelles ont été les raisons de cet arrêt de formation dans ce domaine?
Bah, je rappelle que 1941, c'est quand même pas l'époque la plus glorieuse
c'est
de notre
l'État français, c'est Pétain. Mais, et il y avait une corrélation avec le fait de ce pouvoir, avec cette disparition de cette formation.
C'est toujours un peu délicat de l'affirmer clairement. Il y avait quand même un besoin ou une aspiration à mettre les choses en ordre. Donc mettre les choses en ordre, ça veut dire aussi réserver des choses à certains ordres qui ont été donc à l'époque l'ordre des médecins et des pharmaciens. Et donc c'est dans ce contexte-là, si vous voulez, que ça a été supprimé. Oui. Et la relation à la santé est quand même quelque chose de très particulier dans le sens où l'autonomie qu'on va donner aux gens ou qu'on va permettre aux gens d'avoir sur leur possibilité de prendre en main leur santé est aujourd'hui très très limitée, quoi. Donc si vous voulez, nous on s'oppose un petit peu à ça dans le sens où on dit mais c'est aussi important que les gens puissent être responsables de leur santé, qu'ils puissent être capables de choisir, c'est-à-dire quand on veut aussi une plante de qualité, il faut être capable il faut avoir la possibilité d'aller vers des productions de qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question d'avoir le droit ou pas de vendre les plantes. C'est que si vous avez le droit de faire le conseil, mais qu'en même temps, la qualité de la plante et du produit n'est pas géniale, c'est un petit peu dommage, quoi. C'est pour ça que nous, on défend cette petite production artisanale qui n'est pas une production industrielle. Et qui pour nous est quand même un signe de haute qualité. Si vous voyez, c'est un petit peu comme si on disait, écoutez, les tomates, on a le droit de les vendre que si elles ont été dans un calibre donné, etc. Et que tout ce qui est petite diversité locale, etc., qui en même temps ont une qualité énergétique importante, ne sont pas forcément dans des normes complètement calées. Et que c'était interdit à la vente pour des questions de normes. Aujourd'hui, c'est ça notre problème. C'est qu'on est confronté à des normes extrêmement complexes au niveau réglementation. Juste pour préciser.
Qui dépassent même l'entendement.
Oui, qui dépassent l'entendement. Parce que si vous voulez, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'une lavande est une plante multi-usage. Enfin, on n'a jamais pu vraiment d'ailleurs. C'est-à-dire, soit c'est une plante médicinale, donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de la vendre. Soit c'est une plante pour les cosmétiques, donc elle doit rentrer dans une législation très particulière. Soit c'est une plante en alimentaire, donc encore une autre, c'est-à-dire en complément alimentaire. Soit c'est une plante qu'on va utiliser en biocide. Soit c'est une plante qu'on va utiliser en arôme alimentaire. Ben voilà, donc si vous voulez, vous avez pour chaque une réglementation différente et un étiquetage différent. Donc ça, c'est complètement kafkaïen et c'est ingérable. Au quotidien, c'est ingérable.
Juste une anecdote, sans citer une autre marque, j'ai remarqué que les notices dans les emballages ne sont pas en noir et blanc, imprimé noir sur blanc, mais vert sur blanc. Et c'est assez confus à lire. C'est une démarche voulue par les autorités pour ne pas vous aider.
Alors, je dirais pas, je pense pas que ce soit voulu. Je pense
on peut dire que c'est de manière à ne pas à bien marquer que ce n'est pas un médicament. Par rapport à une notice, ça doit être explicitement écrit en noir sur blanc pour un médicament, ouais, mais ouais. Sur une plante paramédicale ou un traitement paramédical, je suppose qu'il y a des contraintes législatives qui ne vous autorisent pas à faire autrement que d'imprimer en couleur, je suppose.
Alors, sur cette question précise, je n'ai pas de réponse. Simplement, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un empilement de réglementations. On est en train de travailler avec... Il y a une étude là, qui va sortir avec France Agrimaire qu'on avait demandé donc, au niveau de la profession. Et en fait, il y a aujourd'hui un empilement extraordinaire des réglementations qui fait que c'est confus pour tout le monde. Donc du coup, on se retrouve effectivement avec des notices d'utilisation, des fois... qui font une page et qui embrouillent plus les gens qu'ils les serrent. Ce que je déplore le plus, c'est une sorte de perte complète de bon sens, quoi. C'est-à-dire chacun tire le parapluie pour ne pas avoir d'ennui, mais en réalité, on se retrouve dans des situations complètement ubuesques, quoi.
Une fois la cueillette faite, il y a la période de séchage, je suppose. Il y a des plantes qui ont besoin de sécher avant d'être cuites ou bouillies. Et d'autres qui sont traitées fraîchement. Par exemple, la lavande, elle se traite fraîche.
Alors la lavande, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent qu'il faut la faire préfaner parce qu'elle va se distiller mieux. Et d'autres qui disent si on veut avoir le meilleur rendement, il faut la distiller tout de suite. Sur la lavande, sur la question de la lavande précisément, je dirais que nous, quand on peut la distiller tout de suite, on le fait. Très souvent, on attend un peu, parce qu'après, c'est une question aussi de... Voilà, on ne peut pas tout distiller d'un coup. Donc des fois, ça attend quelques jours. Après, c'est très variable suivant les plantes. C'est-à-dire d'une plante comme la sauge sclarée, il faut la distiller tout de suite. Les résineux, on va attendre 3 semaines, 1 mois, sans problème pour que ça sèche même. Il y a des plantes, il faut qu'elles soient sèches. Celles qui sont un peu plus coriaces, comme les résineux, les lauriers, etc.
Ouais. Et cette distillation, vous la pratiquez vous-même ?
Oui, bien sûr.
Vous avez, comment on appelle ça, un alambic ?
Un alambic, oui, tout à fait.
Un seul, ou alors vous en avez plusieurs en fonction de ce que vous produisez ?
On a plusieurs alambis, en fait, puisque en fait, on a une chaudière qui alimente soit un alambi en cuivre de 450 litres, soit un alambi en inox de 650, plus un petit alambi de 50 litres pour distiller la rose.
Et... Parce que de ce fait de cuire ou de distiller des plantes, ça crée de l'alcool. Est-ce que vous avez des contraintes au niveau de l'alcool par rapport aux services fiscaux ou...
Alors, si on distille des plantes, on génère de l'alcool si on a une plante qui a fermenté, c'est-à-dire que une plante où il y a eu du sucre, et donc où le sucre s'est transformé en alcool, et où donc il y a une petite partie d'alcool, et quand on la distille, on concentre l'alcool. Donc ça, c'est la distillation alcoolique, hein, pour faire de ce qu'on appelle la goutte, l'agneau, le mar,
oui.
Voilà. Nous, c'est un peu différent. C'est pas des plantes donc qui ont subi une distillation alcoolique. C'est des plantes en fait qui sont. On extrait l'huile essentielle de la plante, c'est-à-dire que en fait les huiles, les molécules d'huile essentielle sont dans la plante. Et en fait, quand on distille, le fait de chauffer éclate les poches qui renferment ces molécules. Ça libère ces molécules et la vapeur d'eau entraîne ces molécules. Ensuite, il y a une recondensation qui fait qu'on recueille l'eau florale et l'huile essentielle dans un même vase, mais par différence de densité, elles vont se séparer.
Et c'est du fait de températures différentes de distillation, par exemple, soit pour les huiles essentielles ou les eaux florales, ça nécessite d'autres manières de faire.
En fait, on recueille pour une même distillation, on va recueillir les deux produits. C'est-à-dire qu'on va recueillir, pour une plante à huile essentielle, hein, comme la lavande par exemple, on va recueillir d'une part l'eau florale qui en fait était la vapeur d'eau qui s'est chargée en principe actif, et d'autre part l'huile essentielle. Et donc ça, c'est dans une même opération. Après, si vous faites certaines plantes comme le bleuet où il n'y a pas d'huile essentielle, là on va distiller que pour l'eau florale. Voilà.
Et puis, je vois, il y a une troisième... Alors, oui, bon, après, c'est les cocktails. Ça, c'est des choses que vous créez vous-même.
Oui, voilà, c'est des mélanges, par exemple, pour le soin de la peau, ou pour des choses comme ça, oui. En cosmétique, souvent, ou en boisson aussi. Hein, on fait aussi pour des boissons.
Il y a les huiles de massage. Vous-même, vous les produisez?
Alors, les huiles de massage, effectivement, on les fait à partir d'un pourcentage plus ou moins important d'huile essentielle donc, qu'on produit, et on mélange avec une huile végétale. Voilà. Et alors, il y a aussi à ça ou les huiles de macération. Par exemple, le millepertuis, c'est un produit très connu, hein, l'huile de millepertuis. Le millepertuis qui est macéré pendant 40 jours dans
au soleil.
L'huile d'olive.
Et vous avez des recettes un petit peu de grand-mère que vous perpétuez aussi. Et vous êtes en recherche parfois vous-même de nouveaux produits ou de nouveaux distillats avec des plantes nouvelles ou un peu inconnues.
Oui, c'est vrai que là, on va distiller du noyer. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui se fait. Et j'ai regardé un petit peu dans la littérature et je vois qu'on utilisait au 18e siècle de l'eau florale de noyer. C'est dans le livre de Cazin, un docteur qui, au 19e siècle, a développé beaucoup de remèdes populaires pour soigner les gens les plus pauvres, en fait, puisque les gens n'avaient pas les moyens. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aller vers, revoir un petit peu ce qui se faisait et revenir un petit peu là-dessus. Oui.
Thank you.
Ça, c'est votre production hein, oui. De la Rivière des Arômes. Et en parallèle, vous parlez de Simple. Simple, qui est un syndicat de ce métier à travers la France.
Tout à fait. C'est Simple, donc c'est le syndicat intermassif pour l'économie des simples. Et ça regroupe des petits producteurs qui ont un cahier des charges précis et rigoureux, dans le sens où l'objectif, c'est de, par rapport à la cueillette, par exemple, déjà, de récolter à la main, de faire attention à la gestion des sites, c'est-à-dire qu'on ne récolte jamais toutes les plantes qui sont sur le site pour permettre une bonne régénération. Il y a un cahier des charges sur la distillation, sur le séchage, etc. Et il y a une réflexion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment fait par la profession elle-même pour arriver à, plus possible, affiner notre pratique qui évolue, hein, comme tout le monde, vers quelque chose d'une qualité optimum. Et qui a le souci aussi de la transmission des savoirs. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des formations, des fêtes nationales aussi, rencontre la fête nationale des simples, etc.
Et donc le simple, c'est un syndicat certes, mais est-ce que ça vous permet aussi d'avoir une plus grande visibilité au niveau du marché? Et de là même, est-ce que ça serait plutôt une garantie de production vis-à-vis des consommateurs?
Alors, garantie de production, oui. Garantie de qualité de production, oui. Après, au niveau des marchés, je ne peux pas vraiment dire ça. C'est-à-dire que
c'est pas une volonté, en tout cas, au départ.
Non, c'est plutôt un choix de démarche. Aller au simple, c'est plus un choix de démarche, de travailler ensemble sur ce métier. D'échanger avec les collègues et parce qu'on a des contrôles internes hein, tous les ans, on se visite les uns les autres et puis on évolue comme ça ensemble. Mais c'est pas ça qui va nous ramener des marchés supplémentaires, si vous voulez. Ça donne une gage de sérieux et de garantie sur qu'est-ce que c'est la démarche simple et de quoi on se soucie réellement quand on travaille les plantes. Voilà, c'est de plus prendre la plante comme un, je veux dire, comme un partenaire de vie, en fait, que la plante comme un simple produit, quoi.
Ça regroupe à peu près combien de professionnels simples au niveau national?
Alors, il y a les producteurs qui sont adhérents à la charte. Il y a d'autres producteurs sympathisants, plus les sympathisants. Donc, en tout, il y a à peu près 400 adhérents. Dont une bonne centaine de producteurs adhérents à la charte et qui sont répartis dans différents massifs en fait. Il y a 7-8 massifs différents.
Voilà, ouais, je vois Alpes, Auvergne, Bourgogne. Vous avez quelle fonction alors au niveau de Simple?
Alors donc, moi je suis co-secrétaire donc. Donc une fonction, je dirais, de gestion du fonctionnement du syndicat en interne. Voilà, on travaille aussi sur les orientations et aussi sur la représentation nationale quand c'est nécessaire.
Je voulais savoir, la transformation et la distillation nécessitent un laboratoire. Il y a des conformités précises pour un laboratoire de distillation actuellement. Et est-ce que Simple œuvre dans cette optique, justement quand vous disiez que vous contrôliez mutuellement d'une année à l'autre? Est-ce que c'est pour faire évoluer la profession aussi et d'être, fiable face aux institutions?
Alors tout à fait, hein, tous les ans, depuis 2-3 ans, là, on fait une formation donc, sur la distillation notamment, sur la qualité de la distillation. Et on l'a fait chez nous d'ailleurs, on fait des essais de distillation dans différents alambis pour voir un petit peu comment on peut améliorer la qualité, comment on peut définir ce que c'est pour nous la qualité. Et puis, on travaille aussi sur l'aspect réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de formations sur la réglementation, pour arriver à nous-mêmes à faire des propositions pour que la réglementation puisse, pour qu'on puisse vivre malgré la réglementation, je dirais. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas de pas vouloir être en règle, c'est que nos petites structures ne sont pas adaptées à une réglementation européenne et internationale ou même nationale. C'est adapté à des systèmes de gros laboratoires. Donc il faut qu'on puisse, nous, rester des structures à taille humaine. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait des aménagements nécessaires.
Les institutions ou nationales ou européennes ont elles-mêmes leurs services de contrôle, par exemple, de ce type de production, et elles peuvent mettre des embûches aux petits producteurs, par exemple. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle ou pas?
Oui, bien sûr. Moi, je connais des gens, devant la complexité, on doit arrêter le projet alors qu'ils faisaient des très bons produits. Nous-mêmes, on a été contrôlés. Il y a énormément de collègues qui ont été contrôlés. Et le contrôle, il n'est pas fait sur la qualité du produit. Le contrôle, il est fait plus sur l'étiquette du produit. C'est-à-dire que la problématique générale, par exemple sur les huiles essentielles, la problématique générale, c'est que l'huile essentielle, par exemple, aujourd'hui, est soumise à la réglementation REACH. C'est une réglementation donc qui a pour objectif de défendre le citoyen face au risque, notamment des produits chimiques, etc. Donc c'est très intéressant parce que sur l'idée, c'est très intéressant. Après, le problème, c'est que derrière, on va considérer l'huile essentielle comme un produit chimique, c'est-à-dire comme un ensemble de molécules. Et donc, du coup, on rentre dans une forme de réglementation qui ne prend pas en compte l'aspect vivant du produit, mais qui ne prend que en compte le produit en tant que molécule, en tant qu'ensemble de molécules. Simple exemple, dans une huile essentielle de lavande, il y a du linalool. Bon, le linalool aujourd'hui est défini comme un allergène. Bon, ok, donc ça veut dire que quand vous allez faire par exemple une huile essentielle ou un produit cosmétique à base de lavande, il va falloir mettre tous les allergènes, donc le linalool, le limonène, etc. Donc si vous voulez, ça demande déjà un gros travail pour faire ça. Ça demande de faire des fiches de données de sécurité, etc. Donc si vous voulez, cette complexité rend le travail très complexe, nous fait passer beaucoup de temps là-dessus. S'inscrire au portail européen, tout ça, pourquoi pas. Mais je veux dire, après, il faut la caution aussi de quelqu'un donc, qui est chimiste, vous voyez. Donc, si vous voulez, on rentre dans des arcanes réglementaires qui ne sont pas adaptées à notre système, vous voyez, et qui rend le produit... non pas moins dangereux, il le rend beaucoup plus coûteux et ça change rien à son efficacité, vous voyez. Et en plus, il ne peut rentrer que dans un cadre. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire l'huile essentielle de lavande, c'est cicatrisant, et vous allez pouvoir aussi l'utiliser en cosmétique ou pour vous soigner ou pour mettre un diffuseur. Je ne disais que pour une chose. Donc ça saucissonne une plante qui, elle, a une action plus globale. On rétrécit par le système réglementaire actuel.
Ça fait à peu près, d'après ce que je lis, une trentaine d'années qu'existe le syndicat simple.
83, oui.
83. Et c'était vraiment une nécessité pour vous de vous retrouver entre vous pour vous défendre contre quoi?
Ben, c'est vrai que c'est déjà... On est quand même relativement isolé dans nos zones montagneuses, parce que beaucoup sont en montagne. Donc, si vous voulez, à partir de là, c'était important à un moment donné de pouvoir se regrouper avec ses pairs, en fait, et pouvoir échanger, déjà. et pouvoir défendre notre vision des choses. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est heureux de voir aussi que sont reprises certaines des idées qui étaient défendues il y a 20 ans, qui paraissaient farfelues et qui aujourd'hui sont complètement d'actualité. Donc du coup, voilà, ça nous encourage à continuer dans ce sens, quoi, et à défendre la profession et à avoir une forme de reconnaissance de notre métier, pour pas qu'on soit toujours avec une épée de Damoclès. Nous on a été contrôlés, on a toujours le... On n'est encore pas complètement en règle, on n'a pas fini de se mettre en règle encore. Hein.
Et puis les règles changent tout le temps, toujours avec plus de contraintes, jamais par, comment dire, allègement.
Oui, alors c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que y a un empilement des réglementations. Je dirais qu'on a une chance, c'est d'avoir encore affaire à des humains quand on est contrôlé. Non, mais c'est important parce que...
Et qu'ils connaissent ce domaine précisément.
Alors, ils connaissent pas forcément la complexité des choses, mais en tout cas, ils connaissent bien leur propre métier, la réglementation. Et ils peuvent être aussi à l'écoute des choses. Donc, c'est ça qui aussi est intéressant, c'est qu'on peut aussi trouver des espaces d'aménagement pour que ce soit viable, parce qu'autrement c'est pas vivable, quoi.
Vous en vivez de cette activité actuellement ?
Oui, moi j'ai longtemps eu une activité à côté de d'élagage, espace vert, et puis je peux dire que j'en vis, je fais un peu des formations aussi aujourd'hui à côté, mais oui, je peux dire qu'on en vit, oui.
Tout à l'heure, vous parliez de cueillette, en dehors de l'émission, hein, je précise, et vous me disiez que vous aviez interdiction de conseiller les cueilleurs.
Non, de conseiller les gens qui nous achètent des plantes. J'ai pas le droit de vous dire ça c'est bon pour la grippe ou ça c'est bon pour votre bronchite.
D'accord.
Officiellement.
Voilà, et j'en reviens, il y a des productions dans le Diwa qui vendent leurs produits avec des notices, avec un tableau. Mmh. Donc ça, vous n'avez pas le droit vous-même de l'indiquer sur vos produits.
Alors, sur le produit, non, sûrement pas. Après, je peux aussi avoir des livres et dire, regardez, sur ce livre, on dit que... Voilà, ça c'est possible, par exemple, vous voyez. Donc on trouve un aménagement comme ça. Bon, quand ça fait 15-20 ans qu'on travaille là, qu'on a les retours des gens, on dit ce qu'on a à dire, tout simplement. Et puis je dirais aussi que pour nous, c'est aussi une forme de nécessité de continuer à porter des savoir-faire qui sont à la fois des savoir-faire locaux, traditionnels, et qui se perpétuent. Parce qu'on ne peut pas tout saucissonner non plus, on ne peut pas laisser uniquement des monopoles avoir le droit de dire les choses. Et je trouve que c'est important que le citoyen ait la possibilité de choisir.
Oui. Et le citoyen s'intéresse à cette production ? Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à vouloir eux-mêmes fabriquer peut-être leurs essences ? Est-ce qu'il y a un intérêt même pour eux ? Certainement, oui.
Ah ben énormément, hein. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de demandes de gens pour s'installer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, la demande augmente, la demande de produits. Donc du coup, voilà, il y a encore de la place pour tout le monde. Ça va.
Et vous-même, vous proposez des ateliers d'initiation à ces cuissons ou ces distillations ? Il y a une demande des gens dans le genre portes ouvertes, vous organisez parfois ça ?
Oui, nous on fait les portes tout l'été, on fait des portes ouvertes le jeudi soir à 17h.
Oui.
Donc les gens qui veulent venir, hein, c'est gratuit, ils sont bienvenus, il n'y a pas de souci. Et puis sinon moi je fais aussi des formations, distillation. Ça plutôt dans le cadre des centres de formation en partenariat avec les CFPPA par exemple, des choses comme ça.
Ouais, ça donne une porte ouverte quand même aux institutions alors.
Ah ben tout à fait, je veux dire en même temps, vous savez, Je veux dire, moi, je suis passé par le processus classique d'installation des JA. Donc, pour faire ce que je fais, j'ai aussi été accompagné par le système officiel. Et c'est aussi là toute l'ambiguïté. C'est-à-dire, d'un côté, on nous encourage effectivement à vendre en direct, etc. Et d'un autre côté, officiellement, c'est pas libéré. Donc, c'est ça qui est un peu confus pour les gens.
Voilà. Et donc, vous exercez avec votre épouse, oui. Je suppose, Dominique Jiguic, qui a eu la même formation que vous dans ce domaine.
Oui, c'est ça. Elle a suivi le même cursus.
Et puis, pour les personnes qui voudraient connaître encore plus votre activité, vous avez un site internet.
Tout à fait.
Qui s'appelle Rivière des Arômes. Alors, avec un tiret de 6 entre chaque mot, et arôme au pluriel, bien sûr, .fr.
C'est ça.
Voilà. Et ensuite, vous éditez un catalogue de ce que vous produisez, et vous faites les livraisons. Enfin, vous envoyez les produits par livraison aussi, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on travaille... On travaille de plus en plus par commande, en fait. Hein. Les gens nous font leurs commandes et on leur envoie. Après, on a aussi des dépôts. On fait certaines foires. On a des dépôts sur les biocopes de Cap. J'ai plutôt en tête, mais... enfin, voilà, on a 7-8 foires différentes. Et puis, voilà.
Et puis vous opérez par circuit court, vous avez quelques dépositaires aussi qui proposent vos produits à la vente.
Oui, on a le Beauchêne là sur la route, pas très loin d'ici en fait. On a le Biologie aussi, donc à Gap. Et puis des gens aussi qui vendent en ligne, qui nous prennent des produits.
Et simple, donc ça on peut aussi le citer, hein. Il y a un site internet,
oui.
Donc syndicat-du-6, simple au pluriel, .org.
Voilà.
Et là, c'est un site qui est ouvert pour tous les professionnels, mais aussi pour les particuliers qui voudraient en connaître plus, ou même par exemple se convertir dans ce domaine.
Ah ben tout à fait, hein. Il n'y a aucun souci. Après, il y a deux démarches, il y a les gens qui ont simplement envie de nous soutenir, donc ils vont être sympathisants, adhérents sympathisants. Après, il y a les producteurs qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, qui ont envie de rentrer dans la démarche simple. Et à ce moment-là, ils doivent rechercher donc un producteur pour être parrainé, puisqu'en fait, pour rentrer au syndicat, on ne prend pas juste quelqu'un comme ça qui a envie d'entrer, hein. C'est-à-dire que... On a besoin de s'assurer de l'éthique et du sérieux de la personne et du respect du cahier des charges, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui se fait progressivement sur 2 ans. Les gens deviennent postulants, après passent donc devant le conseil d'administration et puis ils deviennent adhérents s'ils sont dans les clous, quoi.
Eh bien, Jean-François Rousseau, merci de nous avoir donné un peu de votre temps et pour la rivière des Arômes. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.